Marché en main, l'économie mondiale à la portée de chacun.
Chers auditeurs et auditrices de Spoutnik Afrique, bonjour. Ici Quentin Brachet, journaliste et animateur de votre émission Marché en main, qui vous apporte des éléments de compréhension de l'économie mondiale. Dans cette édition, nous reviendrons d'abord sur l'actualité économique. Entre le rapport alarmant de la Banque mondiale sur le fossé grandissant entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres, et la nouvelle livraison de blé russe prévue pour le Mali. En passant par la décision de l'Italie d'inviter plusieurs pays africains au sommet du G7, ou encore la volonté de l'OPEP d'attirer vers elle la Namibie. En deuxième partie, j'aurai l'honneur de recevoir Mohamed Aboubakar Mohamed, chercheur et conseiller au développement des minéraux solides auprès du gouverneur de l'état de Kwara, au Nigeria. Avec lui, nous analyserons la décision du G7 de contraindre tous les pays producteurs de diamants de faire certifier leur production en Belgique dans le cadre de la guerre économique qu'ils livrent à la Russie. Les dirigeants angolais, botswanais et namibiens ont d'ores et déjà adressé une lettre de protestation au groupe. A tout de suite. Les efforts de l'Italie envers l'Afrique coïncident avec un récent rapport de la Banque mondiale. Dans un rapport publié lundi 15 avril, la Banque mondiale alerte sur un fossé grandissant entre la moitié des pays les plus vulnérables économiquement et la moitié des plus riches. En effet, le rapport indique que sur la période allant de 2020 à 2024, les revenus par habitant dans cette moitié des pays les plus pauvres ont augmenté moins vite que ceux de la moitié des pays les plus riches. Une situation d'autant plus critique que certains de ces pays pauvres disposent de nombreuses ressources naturelles. Le taux d'extrême pauvreté y est 8 fois supérieur à la moyenne du reste du monde. Sur les 2 milliards de personnes vivant dans les pays les plus vulnérables, 90% font face à la faim ou à une mauvaise alimentation. La Banque mondiale parle désormais de basculement historique pour souligner la gravité d'une telle évolution. Pour échapper à cette tendance, le rapport recommande à ces pays de miser sur leur jeunesse, sur leurs ressources naturelles et sur leur potentiel en énergie solaire. En Afrique du Nord, le marché des céréales a connu un grand basculement. Le département de l'agriculture des États-Unis vient de publier un rapport sur le marché mondial des céréales qui se consacre en grande partie aux avancées de la Russie en Afrique et au Moyen-Orient face aux Européens. Sur la période de juillet 2023 à janvier 2024, soit les 7 premiers mois de campagne agricole, les exportations de blé en provenance de l'Union Européenne ont diminué de 25% par rapport à la même période de la campagne précédente pour l'Afrique du Nord et même de 60% pour le Moyen-Orient. Les récoltes records de la Russie ces dernières années, principalement pour le blé, ont permis au pays de devenir très compétitif sur les marchés internationaux. Le principal opérateur ferroviaire russe évalue le potentiel des livraisons de la saison 2023-2024 à 3 millions de tonnes. À l'issue de la campagne en cours, la part de la Russie sur le marché mondial de céréales dépassera les 25%, selon le patron de l'Union russe des exportateurs de céréales. Derrière ce revers pour l'Union européenne en pleine guerre économique avec la Russie, notamment via les sanctions anti-russes, c'est la France, principal pays agricole de l'organisation, qui en est la grande perdante. La Russie contribue à la sécurité alimentaire du Mali en préparant une nouvelle livraison de blé. Bamako s'attend à recevoir 50 000 tonnes de blé russe prochainement. L'accord est en voie de finalisation. C'est ce qu'a annoncé le ministère malien de l'Industrie et du Commerce le 12 avril. Le ministère précise que cette opération revêt une importance capitale pour le Mali, tant sur le plan économique que sur le plan de la sécurité alimentaire. L'accord a été initié dès janvier, lors de la précédente livraison, et le fournisseur sera le groupe russe Demetera. Auparavant, le Mali avait déjà reçu de la Russie 75 000 tonnes de blé. Comme le rappelait dans notre émission du 3 avril le directeur du bureau de liaison de la FAO avec la Russie, Oleg Kobiakov, les précédentes livraisons russes au Mali ont couvert 6% de la demande de céréales. La coopération de la Russie avec le Mali ne passe pas seulement par les céréales. La structure éolienne du géant russe Rosatom, l'entreprise Novavind, a commandé un audit du système énergétique malien et une étude de faisabilité pour de potentiels sites pour produire des énergies renouvelables. Dans un premier temps, il s'agira d'étudier l'état actuel du système énergétique. Ensuite, la société cherchera des emplacements optimaux pour implanter ces éoliennes en tenant compte du bilan énergétique du pays jusqu'en 2040. Novavind gère déjà 1,7 gigawatt de production électrique éolienne. Les marchés qu'elle entend conquérir sont essentiellement en Asie avec des projets au Kyrgyzstan, au Vietnam et en Birmanie. En 2023, le rapport AtomEnergoProm indiquait que la société comptait se constituer un volume total produit de 5 gigawatts à l'horizon 2030. Sur le plan des énergies fossiles, la Libye est devenue le plus grand producteur de pétrole du continent africain. Le dernier rapport de l'OPEP a révélé un revirement en Afrique parmi les pays producteurs de pétrole brut. En mars 2024, la Libye est passée devant le Nigeria comme premier pays producteur de pétrole brut à 1,4 million de barils par jour, face à 1,23 million de barils par jour pour le Nigeria. La Libye, en dépit de toutes les difficultés qu'elle rencontre depuis le début de la guerre civile en 2011, parvient à renforcer sa production. La confiance demeure cependant pour le Nigeria du fait des progrès accomplis dans le secteur du raffinage de pétrole avec le lancement de la raffinerie de Dangote qui a commencé à produire dès ce mois d'avril. D'autres grands projets comme l'oléoduc qui reliera le pays au marché européen sont prévus et permettront de rasseoir le Nigeria en leader de la production pétrole africaine. Toujours au niveau de l'OPEP, l'organisation serait en train d'attirer vers elle la Namibie. Le pays du sud-ouest africain pourrait devenir le quatrième producteur du continent en termes de volume avec jusqu'à 700 000 barils par jour. Ces dernières années, des réserves pour un volume de 2,6 milliards de barils de pétrole ont été découvertes en Namibie. Une aubaine pour le pays et un nouveau client pour l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Après le départ de l'Angola en décembre 2023, sur fond de dissensions avec l'organisation sur les quotas, l'apparition d'un nouvel exportateur dans la région intéresse au plus haut point l'OPEP. Le rapprochement entre l'organisation et la Namibie a commencé l'année dernière lorsque le commissaire namibien au pétrole, Maggy Chino, a exprimé son intérêt à rejoindre l'OPEP, selon un rapport de Standard & Poor's Commodity Insight. L'objectif est désormais de faire adhérer le pays à la charte de coopération, une sorte d'antichambre à toute adhésion future. La Namibie devrait lancer le début de sa production de pétrole aux alentours de 2030. Tant que celle-ci ne sera pas lancée, l'adhésion devra attendre. Du fait de ses particularités, le marché des diamants est très encadré avec des processus de certification stricts. Dans le sillage des sanctions contre la Russie, l'Occident a cherché à s'en prendre aux diamants russes, qui représentent à eux seuls 20% de la production mondiale. Comme avec le GNL difficilement traçable, les pays occidentaux se sont heurtés à la difficulté de pouvoir suivre les diamants russes lorsqu'ils finissent par être traités à l'étranger. Après les restrictions du 1er janvier de cette année sur l'importation de diamants en provenance de la Russie, le 1er mars, d'autres mesures ont été prises contre leur traitement dans les autres pays. Le G7 prévoit de mettre en place un mécanisme de vérification et de certification des diamants d'ici le 1er septembre. Les nouvelles règles du G7 imposent que tous les diamants du monde soient envoyés en Belgique, à Anvers, plateforme historique du commerce de ces pierres précieuses, pour être certifiés. La spirale des sanctions contre la Russie emporte toutefois de nombreux autres pays producteurs de diamants. Dans une lettre au G7, les dirigeants angolais, botswanais et namibiens ont demandé d'abroger la disposition qui oblige les producteurs de diamants à les envoyer en Belgique pour certification, l'accusant de peser sur le commerce africain. La lettre n'a pas reçu de réponse, mais la bronca ne fait que commencer. Pour discuter de ces pressions exercées sur les producteurs de diamants africains, je reçois Mohamed Aboubakar Mohamed, chercheur et conseiller au développement des minéraux solides auprès du gouverneur de l'État de Kwara au Nigeria. Pourquoi le G7 se considère-t-il compétent pour édicter ce genre de règles? Il n'a rien de comparable aux Nations Unies pour prendre des décisions à l'échelle mondiale.
Ce G7 veut essentiellement obtenir la domination des nations. Ainsi, les sanctions contre les diamants en provenance de Russie ont généré des problèmes. Mais pourquoi le G7 se sent-il habilité à imposer de telles règles? Vous voyez, le G7 pense qu'il peut le faire parce qu'il est dominant et qu'il est dans une position mondiale où il peut établir des règles, des sanctions, qui seront contraignantes pour tout le monde. Et si vous regardez les pays qui diront « Nous ne sommes pas en conformité avec cette sanction » ou « Nous ne sommes pas en conformité avec ces règles », ce sont des pays moins puissants. Et s'il y en a un qui va à l'encontre de ce que dit le G7, je pense que seule la Russie se distingue maintenant. Donc, que cela nous plaise ou non, les pays plus petits que nous, qui luttent pour leur survie, n'ont pas d'autre choix que de se joindre au G7. Et les pays qui peuvent se débrouiller seuls ne tirent aucun avantage. Ils peuvent se lever et dire « Non, nous ne respectons pas cette règle ». Mais dans l'état actuel des choses, le G7 domine, il domine. Et à cause de cette domination, ils veulent établir les règles. Et ils veulent que tous les pays suivent ces règles.
Qui paiera pour le transport des diamants à Anvers? Combien de temps cela prend-il? Ils ne peuvent pas être envoyés par la poste, il faut un transport spécial, des mesures de sécurité, une assurance. Et qui paiera pour la certification elle-même?
De ce que je sais de la façon dont nous expédions les pierres précieuses et tous les minéraux solides d'Afrique vers tous les pays, vous devez posséder une lettre de créance ou une lettre d'intention. Ensuite, généralement, l'expédition est à la charge du fournisseur. C'est lui qui paiera définitivement les frais d'expédition. Et croyez-moi, ce processus prend généralement 2 semaines, peut-être 10 jours, sur une base minimale. On a besoin d'un transport spécifique, soit par voie maritime ou aérienne. Concernant l'assurance, il faut généralement s'associer avec les banques. Cette façon de procéder est très régulièrement utilisée. De nos jours, les gouvernements ont des agences ou au moins un ministère national dédié aux ressources minérales. Pour que la livraison ne se retrouve pas entre de mauvaises mains, nous mettons en place des mesures de sécurité. Mais pour l'assurance, l'expéditeur devrait souscrire toutes les assurances qui couvrent cela, peut-être en accord avec le destinataire. Croyez-moi, ce sont les fournisseurs qui supportent généralement les dépenses liées à la fourniture de ce matériau et à tout le reste, et qui payent pour la certification elle-même. Bien sûr, ce n'est pas le destinataire qui paye pour la certification. Cela appartient à celui qui détient le matériau. Avant toute chose, vous devez effectuer tous les audits et clarifications nécessaires pour bien faire les choses. Et c'est là où réside généralement le problème. Quand le produit vient d'Afrique, vous devez l'expédier ailleurs pour en faire la certification. Mais si vous pouvez le faire, il vaudrait mieux que vous puissiez venir sur nos terres. Et nous allons voir ce que vous faites. Bien sûr, ils diront qu'au cours de ce processus de certification, vos agents ou l'un de vos représentants autorisés seront également là pour assister à ce processus. Mais cela ne devrait pas être ainsi. Nous ne devrions pas créer de goulot d'étranglement en ce qui concerne ce qui est expédié d'Afrique vers d'autres pays.
Plus globalement, quelles seraient les implications d'une telle initiative pour les producteurs de diamants?
Oui, l'implication est ce que je viens de mentionner, mais je pourrais l'élaborer. Vous voyez, le goulot d'étranglement est déjà créé parce que l'Afrique devrait avoir la latitude de donner tout ce qu'elle veut à toute personne avec qui elle souhaite faire du commerce. Il faut que j'aie la liberté de m'associer à toute personne si je sais que ce sera bénéfique, bénéfique pour moi. L'implication est donc que ces sanctions consument l'Afrique, que cela nous plaise ou non, et créent une sorte de goulot d'étranglement étrange sur le marché. J'ai donc montré que vous n'avez pas le choix. Vous devez vous aligner sur ces décisions du G7. Vous ne pouvez pas consulter un autre manuel pour voir s'il y a d'autres options qui peuvent vous être rentables. Ils sont déjà en train de vous enfermer dans ce genre de situation.
Les pays du G7 ont-ils consulté les pays producteurs de diamants, en particulier africains, avant de prendre cette décision?
Vous voyez, la question est de savoir combien de pays africains sont membres du G7. Combien? Donc, si nous ne sommes pas là, cela veut dire que nous ne sommes pas là chaque fois qu'une telle décision est prise. Dans une salle de réunion, lorsque la décision est prise, l'Afrique n'est pas là. Ils connaissent déjà la faiblesse de l'Afrique, des pays africains. Bien sûr, nous sommes considérés comme des pays du tiers-monde. Vous savez, il y en a beaucoup de pays sous-développés en Afrique. Ils savent donc déjà que nous avons besoin d'infrastructures. Nous avons besoin de ceci. Nous avons besoin de cela. Alors, ils évoquent tout cela pour nous mettre l'eau à la bouche, nous prendre d'autres choses et dire « D'accord, nous vous donnons ceci, puis nous vous prenons cela. » C'est comme si c'était une sorte de négociation. Et je dis que la plupart des pays africains, vous savez, s'alignent sur un pays qui, comme nous le savons, va nous mettre dans une situation de gagnant-gagnant. Pas un pays qui nous dominera, contrôlera nos ressources, prendra nos ressources et nous donnera beaucoup moins de pourcentage dans la prise de décision.
En un sens, les pays du G7 forcent les pays africains à contribuer à l'implémentation des sanctions anti-russes que beaucoup de pays du continent ne soutiennent pas. Pourquoi les pays africains devraient-ils faire cela et que risquent-ils s'ils ne se soumettent pas?
Permettez-moi de vous expliquer cela très clairement. Les pays africains ne soutiendront pas cela. Vous savez pourquoi? Parce que la Russie a été très bénéfique aux pays africains. J'ai eu le privilège d'être invité au dernier sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en juillet de l'année dernière. On a pu voir des représentants des pays africains qui ont honoré ce sommet. Malgré le contrôle de l'Occident qui disait « Il y a la guerre en Russie, n'allez pas en Russie. La Russie n'est-ce pas sûre ?» Nous avons encore plusieurs présidents africains présents. Le Nigeria, d'où je suis originaire, était représenté par le vice-président, Son Excellence Chetima. Vous pouvez emmener les pays africains vers l'océan, mais vous ne pouvez pas nous forcer à boire l'eau de l'océan. Nous savons ce qui est bon pour nous et nous savons avec qui nous voulons nous aligner. Pour nous, ces sanctions atroces ne fonctionnent donc pas. Vous pouvez voir ce que le Burkina Faso gagne avec la Russie et vous pouvez voir ce que le Nigeria gagne avec la Russie. L'échange de ces accords bilatéraux, le progrès technologique. Personnellement, je sais ce que la Russie m'a apporté et ce qu'elle m'apporte en termes de recherche et de développement. Les pays africains ont donc les yeux ouverts. Nous savons avec quel pays nous voulons nous aligner. Nous connaissons les pays qui peuvent nous aider. Nous connaissons les pays qui ne prendront pas nos ressources minérales. Ils ne prendront pas nos richesses pour rien. Nous disons, si vous avez l'idée de produire, produisez. Ne nous vendez pas. Produisez. Venez sur nos terres. Venez les utiliser. Créons une entreprise commune. Partageons les bénéfices. C'est ce que nous disons. Les pays africains voient en la Russie un nouvel allié. Et ils sont prêts à continuer à travailler avec la Fédération de Russie grâce à cette merveilleuse coopération. Personne ne peut donc forcer l'Afrique à faire des bêtises.
Par le passé, les diamants ont pu financer des factions en guerre contre des États africains. La certification devait permettre d'éviter que ces diamants soient écoulés sur les marchés. Les pays africains ont-ils réussi à réduire ou éradiquer le trafic illégal de diamants ?
Oui, l'Afrique fait de son mieux. Mais que cela nous plaise ou non, il nous manque une chose ou une autre. Vous voyez, notre système frontalier, nous devons l'améliorer. Et nous devons également responsabiliser et accorder beaucoup plus d'attention à nos organisations telles que la CEDEAO et l'Union africaine. À ce stade, l'Afrique doit être unie et voir comment se protéger rapidement. Vous savez, quand vous perdez Dieu et vous attendez que quelqu'un vienne vous protéger alors que vous n'êtes pas en train de tracer votre propre chemin. Croyez-moi que le processus externe est pour but de vous protéger ou non, la crise interne dominera toujours. Et quand la crise est interne, qui sont ceux qui vont s'en nourrir? Prenons par exemple Boko Haram au Nigeria. C'est une question de sécurité internationale. Mais nous avons remarqué où ces personnes obtiennent leurs armes. Il est certain qu'elles viennent de quelque part. Je ne veux pas mentionner le pays, mais nous connaissons sa politique. Donc, si l'Afrique n'est pas unie face à chacun de ces problèmes, nous ouvrons définitivement la porte à l'entrée de forces extérieures et à leur domination. Donc, en ce qui concerne la certification des diamants, qui vise à éviter une plaie sur le marché, c'est ce qui s'est réellement passé. Une partie de ces diamants est extraite en Afrique. Mais qui sont les personnes qui le font? Qui sont les personnes qui exploitent les mines? Ce sont les Occidentaux. En Afrique, au fil du temps, nous n'avons pas développé notre appareil de recherche et notre niveau de recherche est très bas. Et je m'assure que nous développons notre recherche et nos données pour qu'elles soient suffisamment solides. Le progrès technologique est donc un désavantage majeur pour l'Afrique. Nous manquons d'avancées technologiques. Nous devons donc extraire certaines de ces matières premières du sous-sol. Pour y parvenir, nous nous tournons généralement vers le monde extérieur et vers d'autres pays, des pays avancés, pour qu'ils nous aident à y parvenir. À ce stade, des professionnels sont envoyés pour extraire les minéraux et vous donner un certain pourcentage. Croyez-moi, certains pays africains ne savent même pas quelle quantité a été extraite et quel pourcentage a été prélevé. Ils savent seulement combien ils ont obtenu. L'Afrique a été trompée. Certains de ces pays sont trompés dans cette affaire. En ce qui concerne le trafic illégal de minerais, des contrôles frontaliers plus complets sont nécessaires pour le supprimer et l'éradiquer complètement. Les patrouilles frontalières doivent être plus efficaces. Les mesures de sécurité dans les aéroports doivent également être renforcées. Des professionnels doivent être formés pour contrôler aux frontières les minéraux qui entrent et sortent du pays. Croyez-moi, dans certains pays, la police et l'armée n'ont aucune idée de ce à quoi ressemble du lithium, un diamant ou du quartz. C'est là que des professionnels comme les géoscientifiques et les géologues doivent être intégrés dans certaines de ces organisations. Je ne vois rien de mal quand des géoscientifiques travaillent dans l'armée. Vous avez besoin de quelqu'un pour interpréter les données liées à la photogéologie. Il faut aussi des géoscientifiques. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un géologue pour identifier les minéraux à la frontière. Voici un minéral, voici un diamant, et vous ne pouvez pas leur faire passer la frontière sans les documents appropriés. Nous devons donc mettre fin à cela et veiller à ce qu'il n'y ait pas de fuite, voire de trafic illégal, comme nous le constatons. Mais dans l'état actuel des choses, le contrôle est là. Mais ce que je dis, c'est que nous pouvons améliorer considérablement ce point pour garantir que nous l'éradiquons totalement. Bien sûr, c'est désormais minime par rapport à ce qu'il y a eu. Vous savez, autrefois, les minéraux pouvaient être expédiés presque librement vers n'importe quel pays. Mais il existe désormais des mesures pour contrôler ce trafic illégal. Mais ces mesures doivent être travaillées et développées davantage pour qu'il y ait une surveillance appropriée.
Dans le cas de ces diamants de conflit, où la certification peut être requise, pourquoi ces diamants doivent-ils nécessairement être envoyés en Europe? Le G7 doute-t-il des qualifications ou de la crédibilité des pays africains?
Bien sûr. Bien sûr, ils en doutent. Laissez-moi vous dire que c'est ainsi qu'ils ont fait de l'Afrique ce qu'elle est aujourd'hui. Je ne veux pas que nous revenions sur l'histoire. Je ne suis pas historien. Mais à l'école, nous traitons de l'histoire et de l'histoire de l'ère coloniale aussi. Vous ne devriez pas nous apprendre à manger du poisson. Apprenez-nous à pêcher le poisson. Ensuite, nous pourrons le préparer nous-mêmes. Mais ce que l'Occident a fait, c'est faire en sorte que ce qui vient d'Afrique soit perçu comme n'étant pas de qualité. Et cela s'est tellement mal passé que même nous, en Afrique, nous ne croyons pas non plus en notre force. Prenons par exemple les professionnels du Nigeria, les experts du Nigeria. Par exemple, nous constatons que dans le domaine de la médecine, les Nigériens réussissent très bien, neurochirurgiens, gynécologues, etc. Laissez-moi aussi dire, par exemple, que vous m'avez contacté pour mes qualités professionnelles. Alors, nous connaissons ce problème et nous n'arrêtons pas de nous dire que l'Afrique ne se développera que si les Africains reviennent développer leur vie. Nous n'attendons pas de l'Europe qu'elle développe l'Afrique à notre place. L'Afrique est un continent doté de ressources naturelles. Nous devons donc trouver cette confiance en nous-mêmes pour nous assurer que quoi que nous fassions, nous croyons en nous et que nous fassions les choses correctement. Donc, pour que nous puissions éradiquer ou arrêter cela, nous devons prouver à l'Europe nos capacités à nous développer pour qu'on ne me dise pas « Oh, docteur Mohamed, je veux que vous mettiez vos perles dans ma poche parce que c'est tout ce que vous pouvez faire. » Non. Ce que nous disons, c'est que oui, vous êtes avancé en termes de développement des infrastructures. Vous êtes avancé en termes de science et de technologie. Nous avons tous besoin de tout cela. Mais en termes d'innovation, les Africains sont superbes. Nous sommes créatifs. Mais à cause de la pauvreté qui a effectivement touché certains des pays africains, il n'y a pas d'argent pour transformer les idées innovantes en quelque chose, en un prototype avec lequel nous pouvons travailler. Vous pouvez voir les travaux de recherche publiés par les universités nigériennes. Nous devons montrer aux Européens qu'il n'y a pas lieu de douter de la qualité de ce qui vient d'Afrique. Si quelqu'un a des doutes sur ce qui provient de l'Afrique, je lui dis d'aller dans son propre laboratoire. En ma présence, je serai là. Vérifiez-le. Ce n'est pas un problème. Nous effectuons un contrôle de qualité. Vous pouvez être sûr que ce matériel est exactement ce qu'il est. Il n'y a pas lieu de remettre en question mon travail ou de douter que nous, en Afrique, avons bien tout contrôlé. Nous le savons tous parce que nous en sommes capables et que nos capacités peuvent réellement faire de la magie.
Comment les sanctions anti-russes ont-elles affecté le marché du diamant?
Nous savons que les sanctions anti-russes ont des conséquences sur ce point. Parce qu'à cause des sanctions imposées contre la Russie, certains de ces pays africains qui rejoignent le marché du diamant maintenant sont obligés de ne pas traiter avec les Russes, avec la Fédération de Russie. Le fait de ceci est que vous êtes limité à ceux avec qui vous traitez. Vous choisissez ce que vous avez sur la table en provenance de l'Occident. Mais si ces sanctions n'étaient pas là, les pays africains auraient bénéficié des relations avec la Fédération de Russie. Le gouvernement russe ouvre réellement les yeux des pays africains sur plusieurs opportunités et possibilités. Et l'Occident ne veut pas que cela se produise. Ils ne veulent pas que les yeux des pays africains soient ouverts. Et ce que veut la Russie, c'est créer une plateforme où vous pouvez avoir plusieurs sources. La question de la certification a considérablement réduit nos opportunités. Nous en sommes donc là à cause de ces sanctions.
Les pays producteurs de pétrole au sein de l'OPEP influencent les prix et dictent globalement les termes du marché aux acheteurs. Pourquoi les pays producteurs de diamants ne font-ils pas la même chose ?
Exactement. C'est une très bonne question. L'OPEP s'occupe du pétrole. Ce ne sont pas tous les pays producteurs de pétrole qui sont membres de l'OPEP, mais la plupart d'entre eux le sont. Maintenant, je n'ai jamais entendu parler d'une organisation comme l'OPEP qui contrôlerait la production de diamants. Mais la question est pourquoi ? Quels sont les pays qui produisent des diamants en aussi grande quantité que les États africains, dotés de ces minéraux solides ? Combien ? C'est précisément parce que les diamants se trouvent en Afrique qu'il n'existe pas d'organisation qui, à l'instar de l'OPEP, réunirait les pays où ils sont extraits. Nous devrions donc leur poser cette question durant la prochaine conférence du G7, du G20 ou des Nations Unies. Cette question devrait être davantage posée. Les dirigeants africains devraient donc poser la question de savoir pourquoi il n'existe pas d'organisation de ce type réunissant les pays producteurs de diamants.
Les BRICS tiennent une part significative dans l'extraction de diamants, notamment la Russie et l'Afrique du Sud, dans la taille des diamants, principalement l'Inde, ainsi que dans leur commerce. Peut-être serait-il intéressant de créer au sein de ce groupe une structure qui puisse assurer un commerce équitable et non discriminant des diamants.
Oui, tout à fait. Cela devrait être très logique. J'étais en Russie en janvier dernier lorsque notre gouvernement a annoncé qu'il souhaitait rejoindre les BRICS. Je m'en réjouis. Une autre conférence liée aux BRICS s'est tenue en Russie, à laquelle je n'ai pas pu assister. Mais mes amis y étaient. Ils ont été nommés ambassadeurs auprès des BRICS et ils ont été invités en Russie. La délégation était très représentative et les réunions ont été fructueuses. Étant donné que la Russie coopère déjà avec des pays africains, en particulier l'Afrique du Sud, dans le cadre des BRICS, le Nigeria est appelé également à les rejoindre. Croyez-moi, dès que le Nigeria aura adhéré aux BRICS, vous verrez à quel point cette structure deviendra forte.
Les pays africains ont souvent souffert et continuent de souffrir de sanctions illégales. Que pense-t-on généralement sur le continent de cet instrument qui est souvent employé par les pays occidentaux ?
Oui, merci beaucoup pour cette question. Vous voyez, certaines des questions sont liées aux accords bilatéraux. Au début, on montre aux pays africains comment ils peuvent tirer profit de ces accords. On leur dit qu'ils peuvent emprunter de l'argent pour construire des infrastructures, des écoles, des institutions avec leurs ressources naturelles comme garantie. Cela dit, vous devez prendre des mesures pour ne pas tout perdre. Car certains gouvernements, lorsqu'ils concluent de tels accords, en voient les avantages, mais n'en reconnaissent pas les pièges. Mais lorsqu'ils commencent à prendre conscience des défauts de ces accords et à prendre des mesures, cela devient un problème pour l'Occident. Les pays occidentaux commencent à imposer des sanctions. Dans de nombreux pays francophones d'Afrique, des manifestations contre l'influence de la France ont déjà commencé. Ils disent « Non, cela ne va pas continuer. Nous voulons nous débrouiller seuls. Nous croyons en nous-mêmes. Nous pouvons le faire nous-mêmes. » Ainsi, ces sanctions illégales de l'Occident sont souvent liées aux accords bilatéraux que les pays africains ont conclus avec lui sans en prévoir toutes les conséquences. Et maintenant, ils doivent en payer le prix. Par conséquent, avant de conclure de tels accords, nous devons réfléchir. Qu'est-ce que je gagnerais au mieux et qu'est-ce que je perdrais au pire? En Afrique, un proverbe dit « Quand tu pars en mer, prépare-toi à affronter le froid ». Il faut toujours être bien conscient des conséquences de ces décisions pour ne pas se plaindre plus tard qu'il fait froid en mer. Nous, Africains, devrions savoir dans quoi nous nous engageons afin de ne pas essayer de tout remettre en cause plus tard en devenant les victimes de sanctions illégales.
C'était Mohamed Aboubakar Mohamed, chercheur et conseiller au développement des minéraux solides auprès du gouverneur de l'État de Kwara au Nigeria. Avec lui, nous avons pu comprendre les enjeux et les rapports de force qui habitent le marché des diamants, entre le bras de fer de l'Occident avec la Russie et les producteurs africains contraints de prendre position sous la pression du G7. Ainsi s'achève cette édition de Marché en main de Sputnik Afrique. Nous nous retrouverons prochainement pour s'entretenir avec d'autres experts et suivre l'actualité de l'économie mondiale. D'ici là, bonne journée et bonne écoute.